Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, bienvenue à tous pour notre quatrième message sur la bonne santé et la guérison divine. Nous sommes en train de faire un séminaire ensemble, un ensemble d'enseignements qui vont établir certaines choses que Dieu veut que les chrétiens puissent savoir sur la guérison divine et sa volonté de guérir. Nous avons commencé dans le premier message de poser la question et d'y répondre. La guérison divine et la bonne santé est-elle la volonté de Dieu pour nous? Et on a vu que c'était vrai, que Dieu nous a créés comme ça, pour sa gloire et pour être en bonne santé. On a vu dans le deuxième message que l'origine de la maladie venait de l'action de Satan, du péché qui est rentré dans le monde, amenant avec lui la mort et la maladie. Et nous avons vu aussi l'œuvre de la rédemption, que ça veut dire vraiment être racheté. Et donc, on a vu dans une troisième partie les obstacles à la guérison divine. Alors pourquoi je le fais dans ce sens? C'est parce que je ne voudrais pas qu'on brûle les étapes et qu'on aille directement essayer, entre guillemets, une des méthodes de guérison et se demander pourquoi ça ne marche pas ou parce qu'on s'est peut-être précipité sans comprendre réellement quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et je crois qu'on ne peut pas non plus, et ça on le verra sans doute aussi, on ne peut pas dissocier dans notre vie certaines parties, comme par exemple dire « Dieu s'occupe uniquement de notre âme ou de notre esprit et ne s'intéresse pas à notre corps » ou de ne pas non plus dire « je veux être guéri pour être en bonne santé physique et puis si j'obtiens ça, je mène ma vie comme je l'entends » et donc voir que non, Dieu s'intéresse à notre être tout entier, esprit, âme et corps. Donc il est important de comprendre ça aussi pour voir comment lui agit. Et donc on a vu un certain nombre d'obstacles à la guérison divine. Alors là, je ne vais pas non plus faire un long résumé du message précédent. Je vais simplement citer quelques grands points. On a vu un des premiers obstacles, c'est l'ignorance. Si on ne sait pas qu'il y a des promesses de Dieu dans la Bible pour recevoir la guérison, alors c'est assez difficile non seulement de prier pour, mais aussi d'avoir la foi pour l'expérimenter. Donc l'ignorance, il y a aussi l'incrédulité personnelle dans certaines situations. Il est important de voir où en est la personne malade, celle qui demande la prière, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle a la foi? Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle espère? Est-ce qu'il y a de l'incrédulité? Donc voir la situation personnelle. On a vu un troisième point, l'incrédulité de celui ou celle qui prie. C'est important aussi. On ne peut pas simplement faire une prière du bout des lèvres et puis s'attendre à ce que Dieu agisse, mais il peut y avoir alors des déceptions chez les gens parce qu'il n'y a pas eu la puissance de Dieu qui a été communiquée. Donc la responsabilité de celui qui exerce le ministère, qui prie, est importante aussi. Ensuite, on a vu numéro 4, l'incrédulité générale. On a cité entre autres que dans la ville natale, ou plutôt là où Jésus a grandi, à Nazareth, on ne l'a pas reçu comme prophète, et même la Bible nous dit il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il a guéri quelques personnes, mais il était limité dans son ministère. On a vu en numéro 5 le doute, que des fois on commence de la bonne façon, comme Pierre marchant sur l'eau, mais en cours de chemin, il peut y avoir le doute qui nous empêche d'aller jusqu'au bout et de recevoir. Et le sixième point, et on s'était arrêté là-dessus, c'est les traditions humaines ou religieuses. Et c'est là qu'on va donc reprendre. En particulier, j'avais posé la question, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus fort que la parole de Dieu? Dans Hébreux 11, 3, il nous est dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde, ou même dans certaines versions, c'est encore plus explicite, il est dit les mondes. Les mondes, ça veut dire vraiment tout l'univers, a été formé par la puissance de la parole de Dieu. Donc nous, on a l'impression que quand la parole de Dieu est là, rien ne peut s'y opposer, ça balaye tout, ça, c'est tellement fort. Mais Jésus lui-même nous a dit, il y a quelque chose qui est plus fort que la parole de Dieu. Et dans Matthieu 15, 6, il nous dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc quand nous avons des traditions, des façons de penser, de raisonner, qui sont là dans notre tête, dans notre cœur, même la parole de Dieu proclamée, des fois, trouve un obstacle et ne peut pas agir selon la puissance qu'elle contient, parce qu'il y a des traditions. Alors, des traditions, ça peut être « je souffre pour le Christ », ou « Dieu a envoyé cette maladie pour m'enseigner », ou « je peux servir Dieu malade ». Bien sûr, dans chaque situation, on peut en apprendre quelque chose. On peut vivre à la gloire de Dieu, même si on est alité, même si on est dans un fauteuil roulant, on peut quand même servir à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant, et ça on l'a vu déjà quand on a parlé de l'origine de la maladie ou de la volonté de Dieu de guérir, ça ne veut pas dire que c'est un plan orchestré par Dieu pour notre bien et que c'est vraiment ça qu'il a voulu. C'est simplement la réaction de certaines personnes dans certaines circonstances qui font que même si c'est une situation qui est difficile, ils arrivent à en faire sortir quelque chose de bien. Mais ça ne veut pas dire que ça doit annuler la parole de Dieu qui est pour nous avec les promesses de Dieu. Donc il peut y avoir des traditions comme ça qui bloquent l'action de Dieu. Alors, pour nous enseigner, Dieu n'a pas envoyé la maladie, mais il nous a envoyé sa parole. Et 2 Timothée 3,16, on va le relire ensemble pour qu'on comprenne bien que la source pour nous d'enseignement, elle est dans la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture. C'est de l'écriture que viennent les promesses de Dieu, c'est de l'écriture que vient la révélation de la volonté de Dieu. Par exemple, je ne sais pas combien d'églises aux États-Unis, mais j'ai lu dans un livre, quelqu'un disait, si dans les 60 000 églises des États-Unis, il n'y a pas une seule personne qui se convertisse en un an, est-ce que pour autant, ça annule la promesse de Dieu concernant le salut des gens? Ça ne change rien à la parole de Dieu, vous comprenez? La volonté de Dieu est toujours la même. Si on ne voit pas de gens qui se convertissent à Christ, ça ne veut pas dire que la volonté de Dieu a changé en ce qui concerne le désir de sauver les gens. Et donc, de la même façon, on peut être bloqué dans certaines traditions parce qu'on ne voit pas certaines choses. On ne voit pas beaucoup de guérisons, on ne voit pas beaucoup de miracles. Parce que dans beaucoup de situations, on a vu qu'il y avait de l'ignorance, qu'il y avait de l'incrédulité, qu'il y avait du doute. Mais ça n'enlève pas la volonté de Dieu et les promesses de Dieu. Ça ne change rien à la parole. Donc pour nous, ça doit être établi une fois pour toutes. Notre source d'information, ce n'est pas l'expérience, mais c'est la parole. C'est ce que Dieu dit. J'utilise la parole de Dieu pour changer mon expérience. Mais je n'utilise pas mon expérience pour interpréter la parole. C'est une grave erreur que font certains. Ils prennent leur vie comme si eux étaient le centre de l'univers et ils veulent comprendre Dieu et interpréter la Bible à la vue de leur expérience. Je ne parle pas non plus de la guérison divine, par exemple, parce que j'ai expérimenté la guérison divine. J'en parle uniquement parce que je prends comme référence la volonté de Dieu telle qu'elle est manifestée dans la parole de Dieu. Il se trouve que Dieu me donne des exemples du ministère de Jésus où il a agi. C'est bon, mais ce n'est pas l'expérience qui fait la base de notre foi. C'est bon d'avoir des expériences parce que sinon, au bout d'un moment, on pourrait se demander si ce n'est pas juste une théorie ou l'être morte ou une croyance générale. Mais la foi, c'est plus que ça. La foi, ça veut dire qu'il y a une action. Alors, on va continuer dans notre partage des obstacles. Il y a une chose que nous devons établir aussi, c'est L'obstacle numéro 7, c'est de continuer de violer les lois naturelles. On ne peut pas espérer la guérison divine, ou plutôt c'est un espoir déraisonnable, en continuant de violer les lois naturelles. Et pour ça, je prendrai Romains 8 pour vous expliquer ma pensée. Romains 8, il nous est dit que nous sommes appelés à marcher par la foi, il nous est dit que nous sommes appelés à être conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous êtes fils de Dieu, vous êtes fille de Dieu. Pour rentrer dans cette maturité des fils et des filles, il vous faut faire quoi ? Apprendre à être conduit. Conduit dans quel domaine ? Ben dans tous les domaines. Si vous dites que votre vie appartient à Christ, il a le droit de contrôler combien de domaines ? Ou est-ce que vous avez des domaines réservés où Dieu n'a pas le droit d'agir ? Ou est-ce que vous avez des domaines où vous dites « là, ce n'est pas la peine que Dieu agisse ». Non, ça ne veut rien dire, ça, ce n'est pas la peine. Il s'intéresse à tous les détails. Quand on aime quelqu'un, ça ne veut pas dire simplement qu'on s'intéresse globalement à lui, mais aussi dans les détails, dans les choses qu'on peut partager. Donc, si on est conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'on sera attentif aussi à certaines directions. Ça peut être des directions concernant simplement le fait de boire de l'eau. On a beaucoup d'exhortations de la part du corps médical, etc. Il y a des gens qui ne boivent pas assez de l'eau. L'eau est nécessaire pour la vie, on le sait, mais plus qu'on ne pense encore. C'est vraiment quelque chose que Dieu a prévu dans notre vie pour que notre corps puisse être renouvelé, éliminer les toxines, le fonctionnement du cerveau, des reins, etc. L'eau est vitale et nécessaire. Donc, il peut y avoir des directions de Dieu pour quelqu'un, vraiment d'une chose très précise, qui peuvent changer votre santé. Donc, ça peut être l'eau, ça peut être la nourriture. Des fois, c'est moins de nourriture ou une nourriture différente. Mais là encore, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que peut-être ce qui vous fait du bien, c'est ce que tout le monde devrait faire automatiquement. Je me rappelle, il y a des années de ça, on avait été invité une fois chez quelqu'un. Et puis, cette personne connaissait une... comment je pourrais dire ça ? C'était un peu devenu son dada, la nourriture, et c'était pas vraiment bio, mais c'était quand même très nature. Et donc il y avait des saladiers immenses, et il fallait manger des quantités de salades, de salades, de salades. C'est certainement très bien, mais c'était comme vouloir forcer les autres, faites tous comme ça. Non, il y a des gens qui ont des besoins différents. Si vous alliez maintenant à l'autre bout du monde, vous auriez une alimentation qui soit totalement différente du jour au lendemain, bah, ça ne vous ferait peut-être pas du bien, alors que les gens de là-bas vivent très bien avec. Donc, c'est une question d'être plus conduit par l'Esprit de Dieu que de simplement avoir des règles préétablies et tout le monde doit les faire. D'accord ? Il y a peut-être des règles de bon sens, mais après, vous avez besoin d'écouter ce qui est bien pour vous. Et quelque part, vous devez apprendre à vous connaître vous-même tout entier, esprit, âme et corps. Moi, je pense que ça prend à peu près toute la vie, mais on n'a pas besoin d'attendre la fin de notre vie pour en arriver là. On peut déjà savoir un peu les choses, surtout parce que Dieu les sait. Si on est conduit par l'Esprit de Dieu, il va nous montrer. D'accord ? Apprenez à écouter. C'est sûr que vous ne pouvez pas, des fois, exercer votre foi contre tout ce qui est peut-être déraisonnable. Si vous brossez jamais les dents et que vous exercez votre foi que je n'aurai jamais de caries, ce n'est pas sûr que ça va marcher. Donc il y a des règles simples qu'on peut observer pour notre bonne santé. Si vous allez dans la neige et qu'il y a un soleil magnifique et qu'il y a la réverbération, peut-être vous feriez bien de mettre des lunettes de protection au lieu d'avoir les yeux brûlés et de ne pas dire non, je marche par la foi, ça ne me fera rien, y compris d'autres choses comme les coups de soleil. Hein, on ne peut pas exposer impunément sa peau à des rayons du soleil et penser que tout va toujours aller bien. On peut voir d'autres petits détails Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à ce que vous ayez des mains toutes douces si vous êtes constamment en train de travailler dans le ciment ou dans la terre, ou, etc. Donc, il y a certaines choses. Un jour, j'ai eu une écharde. C'était un tout petit millimètre de pointe de bois. Mais ça m'a causé des problèmes à un de mes pouces. C'était tout petit, c'était presque rien. Et donc, si des fois on met des gants pour certains travaux, eh ben ça aide. Donc, si on a la peau qui est facilement attaquée, on peut aussi utiliser un petit peu de crème pour la peau ou d'autres choses, d'accord? Donc c'est simplement pour donner des idées sur ça. Des fois on néglige trop ces aspects simples et naturels et on veut toujours que Dieu se substitue à tout. Non, nous avons aussi notre part de responsabilité. Dieu veut certainement agir, mais il peut aussi agir en nous donnant du bon sens. Et il ne faut pas le négliger. Alors on va passer à un point qui est dans un autre cadre maintenant. Un des obstacles aussi pour recevoir de Dieu, j'ai appelé ça le numéro 8, concevoir de l'iniquité dans notre cœur. Le psaume 66, verset 18, nous dit la chose suivante. 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. On ne peut pas à la fois vouloir le meilleur de Dieu pour nous et puis volontairement entretenir le péché et concevoir. La conception, c'est ce qui conduit après un développement d'un bébé et à sa naissance. Si vous avez le péché en vous et que vous l'entretenez, vous le nourrissez et vous trouvez que c'est normal qu'il soit là, ne pensez pas en même temps que vous allez obtenir le meilleur de Dieu. Et rappelez-vous, le péché, ce n'est pas seulement une faute morale. Le péché, ça peut être tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Ça peut y avoir des péchés aussi d'omission, des péchés de négligence, pas seulement des péchés où nous commettons le mal, mais aussi des fois des péchés où nous ne faisons pas le bien que nous devons faire. Or la Bible nous dit, savoir ce qui est bien et ne pas le faire est aussi coupable que de faire le mal. Donc c'est important pour nous de réaliser. Si on conçoit du péché dans notre cœur, on ne peut pas en même temps s'attendre à faire des expériences spirituelles ou de miracles dans notre corps. Et 1 Samuel 15, 23 nous parle de la désobéissance et de la résistance. C'était l'histoire du roi Saül. Saül avait quelques problèmes pour obéir. Il avait été à la fois choisi par le peuple, et puis il y avait des choses qui n'étaient pas en ordre dans sa vie. Dans 1 Samuel 15, au verset 23, le prophète lui dit « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Pensez maintenant à la situation de gens malades. Moi, je ne suis pas en train de dire chaque fois que s'il y a un malade, il faut encore... Déjà, il souffre, il est malheureux, lui tomber dessus en disant « tu as péché, tu es dans... » etc. Mais il y a certaines situations où on ne peut pas toujours tourner autour du pot. Il faut aussi avoir le discernement pour dire « il y a un problème, tu dois régler d'abord ce problème et traiter avec le péché dans ta vie. » Et le péché, ce n'est pas seulement une chose qu'il a faite, mais c'est peut-être une attitude de résistance et de rébellion. Voyez, plutôt qu'une chose, mais plutôt une attitude. C'est important de le réaliser. Quand nous voyons ici qu'il est dit que la divination et l'idolâtrie sont nommées, nous on pense peut-être, si quelqu'un fait de la divination, il fait quoi? Il est en rapport avec des mauvais esprits pour essayer de deviner l'avenir, pour essayer de deviner des choses qu'on ne peut pas savoir dans le naturel. Et donc on se dit, oui, s'il y a une interaction entre une personne et des démons, des mauvais esprits, il se peut qu'il y ait des conséquences au niveau de la personne, au niveau de l'état physique. Vous le concevez ça? Si quelqu'un est idolâtre, qui s'abandonne à des faux dieux, il est aussi sous influence démoniaque. Alors, ça ne nous choque pas de dire « Ah oui, ben, il a un tel problème physique, mais il avait fait de l'occultisme. » Ça, on trouve presque que c'est acceptable comme doctrine. Quelqu'un fait de la sorcellerie, après il a des conséquences aussi au niveau de son état physique. Mais rendez-vous compte que la Bible dit ici, si quelqu'un est en état de désobéissance ou de rébellion, il est dans la même situation et Dieu dit même, à travers son prophète, c'est plus grave encore. Alors vous imaginez le nombre de chrétiens qui disent « Moi je fais pas de divination, je fais pas d'occultisme, je fais pas de sorcellerie, mais je suis constamment malade. » Mais peut-être parce que tu es constamment en rébellion contre Dieu et sa parole, pour certaines choses qu'il t'a montrées, mais que tu veux absolument pas faire. Donc je sais que c'est peut-être pas agréable à entendre, mais il faut que ça soit dit aussi, parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Et sinon, il y a beaucoup d'interrogations. On se dit, pourquoi Dieu ne guérit pas? Pourquoi il ne fait pas ci? Pourquoi il ne fait pas ça? Le meilleur conseil, c'est justement de se faire un bilan de santé total, de voir tous les aspects de notre vie. Puisqu'on veut que Dieu nous bénisse dans tous les domaines, il faut qu'on soit prêt à exposer à la lumière tous les domaines. Dire, Seigneur, mets ton éclairage partout, et jusqu'à ce qu'on trouve les choses qui ne vont pas. On remet en état. Et la bénédiction de Dieu peut de nouveau couler. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va seulement agir pour nous quand on sera parfait. Ce n'est pas la question. Mais s'il montre des choses précises, il faut agir à l'égard de ces choses. Dans le même ordre d'idées, on peut avoir, dixième obstacle, un problème de relation. Donc il faut le citer. Ce n'est pas mon sujet. Ça a déjà été souvent développé. Le manque de pardon. Dans Marc 11, 23, 25, pardon. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses et qu'il vous libère et qu'il puisse agir pleinement. J'avais déjà aussi cité dans la première partie de ce message, 1 Pierre 3, il nous est dit, au verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » C'est un obstacle dans notre vie de prière quand on a des mauvaises relations les uns avec les autres. Et ici, il n'est pas dit que l'homme, c'est le sexe fort et la femme est le sexe faible. Ce n'est pas cette pensée qui est développée. Il est dit simplement que dans certains domaines, c'est la femme qui a des capacités que Dieu lui a données, qui sont supérieures à l'homme. Dans certains domaines, c'est l'inverse. Et donc, quand il y a des bonnes relations et qu'on travaille ensemble, on peut expérimenter la réponse de Dieu à nos prières, à nos besoins. Un dixième obstacle pour la guérison divine, c'est des fois la présence d'un mauvais esprit. Toutes les maladies ne sont pas directement un cas où une personne est démonisée, voire possédée. Mais il arrive que dans certains cas, on prie pour la guérison et en réalité, la personne a d'abord besoin de délivrance. Et on va voir ça dans Luc 13. Dans Luc 13, Jésus était dans la synagogue au verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et je me rappelle un serviteur de Dieu qui était passé dans notre église. Un jour, il a dit qu'il avait été amené à prier pour une personne, pour une jambe. Et il y avait un problème au niveau de la jambe qui était courte et cette personne n'arrivait pas bien à marcher. Il a dit, il a prié pour la personne et c'est comme si la jambe se rallongeait. Et à l'instant qu'il avait fini de prier, elle s'était de nouveau réduite. Alors il a prié trois fois de suite et il disait, mais comment ça se fait que cette personne ne puisse pas réellement recevoir sa guérison? Alors qu'on voyait qu'il y avait une action de Dieu au niveau de cette jambe et de ce corps. Et le Seigneur lui a donné le don de discernement des esprits, qui est un des dons spirituels. Et il a vu qu'il y avait au niveau du genou, il y avait comme des bêtes, comme des serpents ou des espèces de rats qui étaient en train de ronger au niveau du genou. C'était en fait une action démoniaque au niveau d'une jambe. Alors il a exercé son autorité dans le nom de Jésus. Il a chassé ce mauvais esprit qui agissait. Et après, la personne a pu recevoir sa guérison. Et pourquoi je peux donner cette illustration? Comme j'ai dit, on n'enseigne pas à partir d'expériences ou de témoignages, parce que je ne l'ai pas vu, je ne le raconte que de quelqu'un qui me l'a raconté, mais parce que nous avons ici dans la Bible l'enseignement de la parole de Dieu qui montre que Jésus a agi de cette façon. Il a d'abord déclaré que cette personne était délivrée. Quand Jésus a prononcé cette parole d'autorité, « Tu es délivré », l'esprit qui la rendait infirme ne pouvait plus continuer de la maintenir. Et dans un deuxième temps, il a imposé les mains et la guérison s'est opérée. Donc dans certaines circonstances, il faut donc toujours être conduit par l'Esprit de Dieu et savoir aussi suivre l'Esprit de Dieu quand il révèle certaines choses par discernement. Il nous est dit, Luc 13, donc je continue, ou je reprends. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et un peu plus loin, il nous est dit, « Cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Un autre obstacle à la guérison divine, c'est notre imagination qui nous joue des tours. Les gens qui aspirent à la bonne santé, ça c'est normal chez chacun, normalement, une personne veut être en bonne santé. Et puis elle imagine toutes sortes de choses. Et nous avons besoin de réaliser que l'imagination est un don de Dieu pour nous. C'est que ça nous permet d'être créatifs, ça nous permet d'inventer des choses, ça nous permet de donner une forme à nos espoirs, à nos rêves. Mais en même temps, c'est un domaine qui peut nous piéger totalement. Parce qu'on imagine des choses, on pense à des choses, et des fois, on n'a aucune base pour croire ce genre de choses. Alors, l'imagination peut aussi nous jouer des tours. Et dans 2 Corinthiens 10, 3, l'apôtre Paul dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous sommes appelés, non pas à marcher selon la chair, mais on est toujours dans la chair. » Mais certaines solutions ne peuvent pas être trouvées de façon charnelle. Et l'imagination peut être du domaine du charnel, des raisonnements. Alors la Bible nous dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. On peut dire amen à ça. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi, que de plus en plus de personnes soient capables de renouveler leur intelligence. On a tellement d'idées bizarres, mélangées, glanées au fil des ans, à droite, à gauche, par ce que les gens nous ont dit. Quand on en arrive à un sujet aussi important que la bonne santé, la guérison divine, on a dans notre tête des fois un méli-mélo de choses qui beaucoup ne viennent pas de la parole de Dieu. Il y a besoin d'un nettoyage, je dirais, d'abattre certaines forteresses de raisonnement, de pensée. Les abattre, c'est pas gentiment les mettre de côté. Dire ça c'est une pensée destructive ou destructrice. je dois m'en débarrasser. Il faut que je la remplace par quelque chose d'autre. Donc on a des imaginations qui peuvent des fois nous faire manquer la bénédiction. Dans 2 Rois 5, c'est la meilleure illustration qu'on puisse trouver, 2 Rois 5, versets 10 et 12, on a l'histoire de Naaman le Syrien, le général qui était venu en Israël pour recevoir la guérison. Il est allé auprès du roi, il a dit voilà, avec une lettre de recommandation de son roi. Le roi de Syrie disait au roi d'Israël, ben voilà, je t'envoie mon serviteur afin que tu le guérisses. Comme si le roi avait la capacité de guérir la lèpre. Et donc le roi était très choqué, il a dit, mais il cherche un objet de dispute parce que moi je peux pas guérir de la lèpre. Mais le prophète a entendu ça et a dit, si, envoie-le chez moi et on saura qu'il y a un prophète en Israël. Il a été envoyé. Le prophète lui donne des instructions de loin et par un intermédiaire en disant « Va te tremper 7 fois dans le Jourdain. » Et le Naaman, le Syrien, était très choqué de ça parce que ça ne correspondait pas du tout à son imagination. Il avait imaginé autre chose et il nous le dit. J'avais imaginé que le prophète sortirait, qu'il ferait un geste de la main et que il était sans doute habitué parce que il y avait toujours des magiciens et de toutes sortes de sorciers autour des puissants et ça n'a pas changé depuis que le monde est dans cet état. Et donc il avait l'habitude de certaines choses et il avait imaginé que ça se ferait de la même façon. Et je pense que là encore, Dieu montre d'une façon radicalement différente que c'est lui qui agit. Ce n'est pas un homme qui est venu agiter sa main, mais il a donné une parole, il a dit « Voilà ce que je te demande de faire ». Il fallait qu'il agisse sur cette parole. Et on peut dire, c'est encore une illustration du psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit ». Dieu a envoyé vers le Syrien une parole du prophète, en disant « Va te tremper dans le Jourdain ». C'était la parole de guérison pour lui. En rejetant cette parole, il a failli rater sa guérison. Mais il a eu le bon sens d'écouter ses serviteurs et à ce moment-là, il a pu faire ce qu'on lui demandait et recevoir. Quand je disais qu'il était normal pour une personne de vouloir être guérie, ce n'est pas toujours le cas. Alors, le 12e obstacle, c'est un manque de détermination. Jésus a posé la question à un aveugle, « Veux-tu être guéri ?» Un autre, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Il faut être déterminé. Des fois, c'est tout l'entourage qui voudrait que la personne soit guérie et la personne elle-même ne le souhaite même pas. Il y a des personnes qui, on ne peut pas dire qu'elles soient vraiment heureuses dans leur état, mais pourtant, elles se sont un peu habituées à certaines choses. Une des choses principales, c'est qu'une personne qui est malade, si entre guillemets elle a de la chance, elle est entourée et on s'occupe d'elle. Je ne parle pas des malades qui sont hélas isolés et dont personne ne s'occupe. Mais dans certaines situations, il y a des malades qui, entre guillemets, aiment être malades par rapport à ce que ça leur apporte. Centre d'intérêt. Tout le monde s'occupe de moi. Tout le monde est aux petits soins. Et ça peut être un piège parce qu'on n'aimerait pas vraiment sortir de cette situation. Il y a dans notre pays un système social qui veut aider les gens. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui reçoivent une rente d'invalidité, une rente d'autre chose. Ces personnes, des fois, ne sont pas déterminées pour dire « je veux obtenir la guérison de Dieu » parce que ça leur couperait une partie de leur subsistance. Ça leur enlèverait peut-être une rente parce qu'il n'y aurait plus de raison. Alors des fois, ce sont des pièges. C'est une réalité. Donc il faut bien voir au niveau de la personne, est-ce que tu es prête? C'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu touche ton corps? Est-ce que tu veux être libéré de cet esclavage? Mais aussi donner ta vie à Dieu pour le servir après, pour qu'il serve à ta gloire, à la gloire de Dieu. Donc c'est important de voir, est-ce qu'il y a une détermination? C'est comme pour un bébé dans le naturel. Au moment où le bébé naît, il ne peut rien faire. Et il reçoit tous les soins. Mais au bout d'un moment, quand il grandit, on lui demande de plus en plus. Et pour quelqu'un qui est malade, peut-être on peut voir ça aussi. on peut être au petit soin, on peut le soutenir, on peut l'encourager, et au bout d'un moment, on peut peut-être lui demander aussi de participer, de au moins joindre sa foi ou avoir ce désir. Le 13e obstacle, qui va un peu dans le même sens, c'est peu d'empressement. Peut-être on est déterminé, mais maintenant il faut voir encore qu'est-ce que je mets en œuvre réellement. Si on était dans une pièce ou une maison, je vous dis, il y a un coffre caché avec des pièces d'or, il y en a pour des millions, le premier qui le trouve le recevrait. Peut-être il y a beaucoup de gens qui se précipiteraient. Si vous savez que je ne vous mens pas et que c'est la réalité, et il y aurait de l'empressement. Et si vous ne le trouvez pas tout de suite, vous chercheriez jusqu'à ce que vous le trouviez. Je ne parle pas d'une situation où on vous trompe, je parle d'une situation si c'était réel. Je dis, il y a vraiment quelque chose là, premier qu'il trouve. Combien on mettrait d'empressement? Et est-ce qu'on s'arrêterait en disant, ouais, j'ai fouillé pendant 5 minutes et puis je n'ai rien trouvé? Nous voyons ça au niveau de petits-enfants. En général, c'est l'attitude de petits-enfants. Quand on leur dit, parce que maintenant ce ne sont plus des bébés, donc on ne leur cherche pas tout, on dit va me chercher ça, ou tu trouveras ceci ici et là, et si ce n'est pas exactement tout de suite visible, ils reviennent en disant je n'ai pas trouvé. Ça marque l'attitude d'un petit enfant. Ça manque de détermination, ça manque d'empressement et de persévérance. Et donc on a besoin de ne pas simplement essayer un peu pour voir ce que ça donne, mais aller jusqu'au bout. Je crois qu'avec la parole de Dieu, c'est pareil. Certaines personnes ont essayé un peu de religion, mais si on a cette soif de Dieu, si on veut le découvrir, Dieu se laisse trouver. Dieu ne veut pas rester caché, il veut se laisser trouver. On progresse toujours dans cette pensée, peu d'empressement. Numéro 14, de la passivité et du fatalisme. C'est un obstacle à la guérison. Et une phrase horrible et destructrice pour beaucoup de gens, si Dieu veut me guérir, il le fera. Ça ressemble à la foi, et en réalité c'est zéro, c'est rien du tout, ça ne veut rien dire. C'est une mauvaise conception de comment Dieu agit. Ce serait aussi faux que dire, si Dieu veut sauver quelqu'un, il le fera. Alors on est dans une fausse doctrine qui est de la prédestination. Dieu a destiné un tel à être malade. Parmi ces malades, il y en a qui sont destinés à être guéris, et le jour J, à l'heure H, et Dieu a décidé, voilà, maintenant il sera guéri aujourd'hui. Mais alors, pourquoi faire quoi que ce soit? Pourquoi s'agiter? On n'aurait même pas besoin d'être ici ce matin à se rassembler en église. Dieu ferait ce qu'il veut, quand il veut, et nous serions passifs et fatalistes. Ce n'est pas acceptable. Peut-être beaucoup de chrétiens seraient choqués de réaliser à quel point ils sont habités de l'esprit de l'islam. Inch'Allah, Dieu l'a décidé, il le fait quand il veut. Et si quelque chose m'arrive, Dieu l'a voulu. Non, nous sommes au contraire, nous avons un choix individuel, un libre arbitre. C'est un droit sacré. Nous avons le droit et nous avons la capacité de changer notre destinée. Il y a une destinée glorieuse qui nous est réservée, et si des choses se passent, on peut dire, entre guillemets, des incidents de parcours, nous pouvons changer notre destinée, et nous pouvons recevoir le meilleur de Dieu. Donc dans ce sens, numéro 15, ne pas avoir une foi personnelle, mais simplement une croyance. Croire des choses comme celles que j'ai dites, si Dieu veut me guérir, il le fera, c'est simplement une croyance populaire. Mais ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. C'est basé sur des choses que les gens pensent. En général, c'est de la religiosité. C'est un ensemble de croyances, et il y a une grande différence. Numéro 16, ne pas comprendre la différence entre une guérison et un miracle. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la guérison divine parce qu'ils attendent un miracle. La guérison est en quelque sorte un miracle, mais un miracle, on pense souvent opération de Dieu dans le sens instantanée, dans le sens de certaines choses. Pourquoi la Bible parle des dons spirituels en disant certains ont le don d'opérer les miracles et d'autres ont les dons de guérison? C'est parce qu'il y a une différence entre les deux. Il peut y avoir, pour certaines guérisons, un côté progressif. Alors, de dire « Je croyais que Dieu me guérirait, je vois qu'il n'en est rien », arrête immédiatement le processus de guérison qui était en route, parce qu'on n'a pas compris que ce n'est pas parce que, par exemple, le paralytique ne s'est pas relevé instantanément qu'il n'y a pas une opération de Dieu. Il y a des choses qui sont progressives. Quand je commençais aujourd'hui à partager sur vous le fait de violer les lois naturelles, peut-être si vous avez des problèmes dans votre corps suite au fait que vous l'avez maltraité ou mal soigné, peut-être vous êtes dans un processus de guérison maintenant. Vous avez commencé à changer vos habitudes alimentaires ou de soins ou d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est du jour au lendemain forcément que tout sera bien. Si vous aviez des bilans sanguins qui étaient mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils seront instantanément tous corrigés. Je connaissais quelqu'un qui disait « Je mets ma foi en action pour avoir un bon bilan sanguin ». Mais il ne changeait absolument rien à ses attitudes au niveau alimentaire. Je me disais « Bon, je ne crois pas qu'il y ait de la foi dans ce genre de comportement ». Et puis, je connaissais quelqu'un d'autre qui disait que sa grand-mère, deux jours avant de passer le bilan sanguin, elle ne mangeait que du riz parce que ça absorbe les choses, etc. Donc les gens s'inventent des choses ils se trompent eux-mêmes. Donc nous avons besoin d'être attentifs à ce que Dieu veut. Peut-être il est déjà en train de guérir. Vous le croyez ça? C'est possible. Il est peut-être en train de restaurer une situation. Et si vous dites « Je croyais qu'il me guérirait, mais je vois qu'il n'en est rien », la petite semence qui est en train de pousser, c'est peut-être un centimètre de verdure pour le moment, mais c'est comme ça qu'un arbre commence. Et puis, on l'arrache avant qu'il ait eu le temps de grandir. Donc, comprenons, il y a une différence. Marc 16, 18 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront des mains aux malades et ils seront guéris. » Il se peut très bien qu'il y ait une idée de progression dans ce mot. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours s'attendre à ce que tout soit lent, que ça traîne, etc. Non, bien sûr, on a tous envie de voir que Dieu est puissant, qu'il agit et que les gens sont instantanément guéris. Mais que ça ne soit pas une occasion pour nous de négliger le surnaturel de Dieu parce qu'on n'a pas vu le spectaculaire de Dieu. Faites bien la différence entre les deux. Nous aimons le spectaculaire, n'est-ce pas vrai?
Oui.
C'est humain. On aime le spectaculaire, on aime voir. Mais des fois, le surnaturel sera tout aussi spectaculaire au final. Donc, pas besoin d'opposer les deux, simplement comprendre qu'il y a deux façons où Dieu peut agir. Et même plus que deux, hein, beaucoup plus. Mais dans ce domaine, on peut distinguer ces deux. Certains refusent, numéro 17, de croire avant de voir ou sentir. Jésus n'a pas dit « Thomas, c'est bien, au moins toi, tu n'es pas crédule comme les autres. Il fallait que tu vois quelque chose, il fallait que tu mettes tes doigts dans mes mains percées, que tu vois mon côté, ça c'est bien, vraiment, te félicite. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Tu avais besoin de voir pour croire, mais heureux celui qui a cru sans avoir vu. » Heureux, ça veut dire béni, ça veut dire « Tu es dans un stade où la parole de Dieu a de la valeur pour toi. » C'est pas juste « Moi, je ne crois pas à cette parole de Dieu tant que je n'ai pas une preuve. » Vous croyez que ça fait très plaisir à Dieu de tout le temps être mis au défi, de dire « Ouais, je ne sais pas si je peux te croire ou te faire confiance, il faut que tu me donnes des preuves, et encore des signes, et encore des signes, et encore des signes. » Si vous avez une intimité avec Dieu, vous connaissez sa parole. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. » Vous n'êtes pas capable d'entendre quand Dieu vous dit quelque chose. Si Jésus dit « Je suis ressuscité », qu'il l'a dit à des disciples qui ont transmis la bonne nouvelle, eh bien, il aurait dû mettre sa foi en action. Mais il avait besoin de quelque chose. Dans certaines situations, on voit que Dieu ne refuse pas ce signe, mais il ne dit pas non plus « C'est bien ». Dans Marc 11, 23, Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dans l'ordre, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous avez vu ? 1, puis 2. Obstacle numéro 18. La foi baisse quand on est trop attentif aux symptômes, y compris la perte d'une guérison déjà obtenue. Et là, nous avons Abraham, le père de notre foi, le père des croyants. Il nous est dit qu'il a fait quoi ? Il n'a pas faibli dans la foi, mais il a été fortifié dans la foi. Abraham, père de notre foi, Romains 4, 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Dans certaines circonstances, on doit ne pas considérer les symptômes. Ne pas tout le temps regarder nos bobos et que ça s'est fait mal, etc. Quand ça fait mal dans notre corps, c'est une bonne occasion de dire « il y a peut-être quelque chose qui ne va pas ». Comprenez ce que je veux dire ? Si vous approchez votre main d'une flamme et que ça commence à chauffer et faire mal, ça veut dire « attention, enlève ta main ». Si vous la laissez, ben elle va brûler complètement. C'est pourquoi ça fait mal. C'est des réflexes qu'on peut avoir pour éviter plus de dommages. Donc ça, c'est le genre de symptômes qu'il faut faire attention. Ça révèle un problème ou une maladie. Ensuite, on laisse Dieu agir dans notre situation. Mais alors, il ne faut pas tout le temps être fixé sur « mais ça fait toujours mal, ça fait toujours mal, ça fait toujours mal ». Donc, sous-entendu, rien ne se passe et notre foi baisse et faiblit. Comprenez la différence ? Et Abraham ne considéra point son corps, on peut dire. Dans certaines circonstances, il faut adopter la foi d'Abraham, ne considéra pas son corps. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Obstacle numéro 19. On en a encore beaucoup, hein, mais chaque aspect peut nous aider. Ça ne veut pas dire que si vous, un jour vous êtes malade, vous serez concerné par les 19 ou 20, mais s'il y en a juste un qui empêche de recevoir, vous aurez besoin d'être conscient que c'est peut-être celui-là où vous aurez besoin d'agir. Obstacle numéro 19, ignorer que notre foi peut être éprouvée. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, que si on est en train d'obtenir une guérison, on ne sera pas éprouvé pendant un temps. Et Jacques 1 dit, l'épreuve de votre foi, vous devez la regarder comme un sujet de joie complète, non pas votre souffrance, vous devez la regarder comme un sujet de joie complète, mais l'épreuve de votre foi. Disant, la parole de Dieu est éprouvée, mais moi je sais que la parole de Dieu, elle permet d'obtenir les promesses et d'être transformé. Et numéro 20, ne pas mettre sa foi en action. On peut demander, on peut croire, on peut vouloir recevoir, mais on a besoin de mettre la foi en action. Jacques 2, 14 dit « La foi sans les œuvres, elle est morte. » Il faut faire quelque chose, il faut mettre en action notre foi. Quelle illustration on peut trouver ? La guérison des lépreux avec Jésus. Dans Luc 17, on va terminer par ce dernier point. Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils allaient, ça veut dire cette parole de Jésus, ils y ont obéi. C'est ça la foi en action. S'ils avaient eu l'attitude de certains, ils disaient bon, « à quoi ça sert d'aller chez le sacrificateur ?» Sacrificateur, il était là pour vérifier s'il y avait un cas de lèpre qui se développait ou qui ne se développait pas, ou si c'était autre chose, selon les livres de la loi. Tout était bien codifié, vous pouvez lire ça dans le Lévitique en détail. Et donc, ils ont obéi à la parole de Dieu. Quand Dieu nous donne une direction, quand il nous donne des instructions, il faut le faire. Il faut le faire, ce n'est pas une option. Quand j'ai dit être conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que Dieu peut donner des instructions précises. Ici, ils ont obéi, ils sont allés. Et pendant qu'ils allaient, nous dit la Bible, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils allaient, au moment où Jésus leur dit « Allez vous montrer », rien ne s'est passé. C'est au moment où ils ont accepté la parole de Dieu qu'ils sont allés et qu'ils l'ont fait. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà le but, donner gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons faire dans notre esprit et dans notre corps qui lui appartiennent. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.